Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équation de Fischer-KPP. Alors, en fait, c'est une équation qui a été introduite en 1937 dans deux travaux. L'un de Ronald Fischer, qui est un statisticien tourné vers la biologie. Donc, il avait fait beaucoup de travaux sur l'évolution en biologie. Il est l'auteur du modèle de Wright-Fischer, dont je parlerai, qui permet d'étudier les propriétés d'une population qui évolue avec neutralité. Donc, les derniers cours où je vais discuter la différence entre une évolution neutre et une évolution avec sélection. Il est l'auteur de ce qu'on appelle le théorème fondamental de la sélection naturelle, qui est quelque chose d'assez facile à comprendre, et je parlerai de ça aussi plus tard, de théorème sur les valeurs extrêmes. Et même, il a fait un modèle pour expliquer pourquoi le rapport entre le nombre de mâles et de femelles dans une population tend vers 1. Alors, donc ça, c'est Fischer. Et puis, KPP, c'est Kolmogorov, Petrovski et Piskunov. Donc, les deux travaux datent de 1937. Et donc, Kolmogorov, c'est un grand nom des probabilités. Mais ce n'est pas uniquement ça. En fait, il est un des trois auteurs du théorème CAM, Kolmogorov-Arnold Moser, qui est un grand théorème de la mécanique et des systèmes dynamiques. Il a fait des travaux importants sur la turbulence en analyse mathématique. Petrovski et Piskunov sont aussi des Russes qui ont travaillé sur des équations aux dérivées partielles et sur le calcul différentiel. Et tous ces gens-là sont des gens de la première partie, des années avant 1960 ou 1980. Alors, la motivation pour cette équation KPP, qui est en fait un point de départ de toute une série de travaux importants et qui est toute une école française, en fait, en particulier en mathématiques, qui est partie de ce genre de problème. Et leur motivation originelle, c'était de s'intéresser à la façon dont un gène se répand dans une population. Donc, en fait, ils ont considéré... il y a des versions un peu différentes des modèles, mais en fait, ils ont considéré un gène, par exemple, qui peut être présent sous la forme de deux allèles, A, grand A et petit a. Donc certains individus portent le gène grand A et d'autres petit a. Je ne suis pas un biologiste, donc je vais essayer d'utiliser un langage que je comprends et qui est assez simple. Et ces deux allèles ne sont pas tout à fait équivalentes, dans le sens qu'il y en a une qui se reproduit un peu plus vite ou un peu plus souvent que l'autre. Donc, disons que A va être favorable et petit a va l'être un peu moins favorable. Et donc, l'idée, c'est de se dire, supposons que j'ai ma population, que tout le monde est avec l'allèle petit a et qu'on introduit quelque part des individus avec l'allèle grand A. Donc, ils vont se reproduire un peu plus vite et donc, petit à petit, leur descendance va se mettre à envahir tout l'espace. Et donc, typiquement, l'image qu'on peut avoir, c'est qu'au départ, il va y avoir essentiellement la concentration de petit a va être essentiellement 1 partout, enfin, ou une certaine valeur. Et puis, localement, on introduit l'espèce petit a ou les individus qui portent le gène petit a. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que comme ils se reproduisent un peu plus vite que les autres, ils vont prendre la place des autres. Et au bout d'un certain temps, ce qu'on va observer, c'est quelque chose comme ça, c'est que il y aura des régions avec surtout du grand A et que la région occupée par le grand A va se mettre à envahir tout l'espace. Et ça, c'est la question à laquelle essaye de répondre cette équation de Fischer-KPP. Alors, j'ai encore écrit, et l'équation de Fischer-KPP, elle s'écrit sous cette forme. U, ça va être la concentration de grand A. Donc, essentiellement, ça va être localement au point X, enfin, au voisinage d'un point X, le nombre de grand A divisé par le nombre total. Et l'équation de Fischer-KPP, elle s'écrit de la manière suivante. Je vais l'écrire dans un coin ici. Du sur dt égale laplacien de U. Donc, en fait, les individus ont tendance à diffuser dans l'espace, plus un terme qui va avantager l'espace grand A ou l'allèle grand A par rapport à l'autre allèle. Donc voilà l'équation de Fischer-KPP dont je vais discuter, et je vais déjà essayer de vous justifier rapidement la présence de ce terme. Et une des difficultés dans ce genre d'équation, c'est que c'est une équation non linéaire. On va discuter un moment tout à l'heure le cas de l'équation linéaire. Bon, l'équation linéaire, elle se résout par mille et une façons, donc ce n'est pas une difficulté. Alors, je vais essayer de vous justifier rapidement le terme non linéaire en prenant un petit modèle, et on va refaire un peu ce qu'on a fait la dernière fois en prenant un modèle avec un site. Alors, je vais prendre un modèle à un site avec un nombre total grand N. Et donc, le grand N, il va y avoir petit n avec l'allèle grand A et grand N moins petit n avec l'allèle grand B. Bon, et puis, on fait un modèle simple. On va considérer que, de temps en temps, il y a un des individus qui meurt et puis il est remplacé par soit un individu de l'espèce A, ou pardon, pas grand B, petit a, excusez-moi. Soit il va être remplacé par un nouvel individu de type grand A, ou soit de type petit a. Et donc, en fait, le nombre N, il va pouvoir, chaque fois qu'il y a un remplacement, il va passer à N plus 1, il va passer à N, ou il va aller à N moins 1, et pour aller à N plus 1, ben, il va y avoir un taux qui va être de la forme n, grand N, moins petit n, je vais le commenter, et puis ici, il va y avoir un terme n, grand N, moins petit n aussi. Comment je peux comprendre ce terme? Eh bien, je vais dire que pour que le nombre de grand A augmente, il faut que un des petits a disparaisse, et puis après, la probabilité que ce soit un grand A qui les remplace est proportionnel au nombre de grands A qu'il y avait sur ce site. Pareil ici. Donc alpha, c'est plutôt le taux de croissance du grand A, et bêta, c'est le taux de croissance du petit a. Et quand on a dit ça, bon, puis ici, c'est la probabilité complémentaire que je n'écris pas, pour que la somme vaille 1. Et donc, ça dépend si on prend un système continu dans le temps ou discret, mais bon, disons c'est quelque chose d'assez élémentaire. Et donc, l'évolution du nombre, donc là je parle plutôt d'un modèle continu, l'évolution du nombre d'individus sur ce site, ça va être alpha moins bêta, facteur de n, grand n moins petit n. Et donc, ça, c'est une équation pour ce type de modèle sur un site qui est parfaitement exact, mais qui a l'inconvénient qu'on a déjà vu, qu'elle fait apparaître des moments comme n carré, et si je veux calculer n carré, il va falloir que je me préoccupe de n cube, et ainsi de suite. Et donc, en soi, ce problème, il néglige, il fait intervenir tous les moments, toute la distribution de P de n, et la dernière fois, on a vu comment on pouvait traiter ce genre de choses. Alors, si on fait une approximation de champ moyen, et l'équation de Fischer-KPP, c'est une équation de champ moyen. Alors, cette approximation de champ moyen, elle consiste à dire, bon, ben, il y a ces corrélations, il y a ce second moment, N2, je veux dire que c'est pratiquement N au carré, auquel cas, j'ai une équation fermée pour le nombre moyen, donc, encore une fois, c'est une approximation. Et si on introduit U qui est égal à... N est égal à grand N U, donc on passe d'une variable entière en imaginant que le nombre total est très grand, qu'on passe à une variable continue, on va trouver que DU sur DT égale C U1 moins U. Bon, et le C, il n'est pas présent dans cette équation, mais en fait, on peut s'en débarrasser en changeant l'échelle de temps, et donc on tombe vraiment sur ce terme de réaction que j'ai écrit, qui est présent dans l'équation KPP. Alors juste un commentaire, eh bien, cette équation, évidemment, elle est facile à résoudre au cours du temps, et si je regarde au cours du temps, je prends un U, si j'ai un certain U0, U à l'instant 0, ce que cette équation va prédire, c'est que asymptotiquement, U va tendre vers 1, et donc toute la population sur ce site va porter l'allèle grand A. Alors ça, c'est ce que prédit cette équation, mais n'oublions pas que cette équation, c'est une équation de type champ moyen. En fait, la réalité, c'est la chose suivante, c'est que si j'introduis un certain nombre, par exemple un individu avec l'allèle grand A, il est possible qu'il meure avant que sa descendance ait pu croître. Donc en fait, la réalité, c'est la chose suivante. D'abord, le nombre fluctue, et parfois, après ces fluctuations, ben, on va se retrouver avec toute la population qui est de type grand A, ou parfois, le nouvel allèle que j'ai introduit, eh bien, par fluctuation, va disparaître, et une fois que ça vaudra zéro, ça restera à zéro. Donc la réalité de ce modèle stochastique, c'est ces courbes-là, ces deux possibilités. J'essaierai d'en parler quand on parlera un peu de modèles de sélection et d'évolution. En fait, si on veut décrire cet aspect stochastique, on aboutit à ce qu'on appelle, je reviendrai là-dessus, dans des cours prochains, sur l'équation de Kimura. Kimura, qui est un grand nom de la biologie et de l'évolution. Mais aujourd'hui, on va surtout discuter cette équation de Fischer-KPP, qui est là, et donc qui est une équation de champ moyen. Et peut-être tout à l'heure, si j'ai un peu de temps à la fin, on verra quel type de prédiction donne cette équation de Fischer-KPP, qui ne sont pas des choses qui se réalisent vraiment à cause des fluctuations qui ont été négligées. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on part de cette équation de Fischer-KPP, si à l'instant initial, si U vaut 0, vous voyez que U vaut 0, on n'a introduit aucun individu de l'allèle grand A, ben ça reste comme ça. Mais supposons qu'initialement, on introduise à l'instant 0 localement quelques individus de l'allèle grand A, et bien petit à petit, ce U va grandir, et au cours du temps, donc ça c'est ici, à l'instant 0, j'ai ceci, au cours du temps, ben, comme on l'a vu sur des sites, si on attend assez longtemps, on va atteindre la valeur 1. Donc si on part avec une certaine condition initiale, donc là c'est un problème purement d'ordre mathématique, je me donne une valeur initiale de U de X, et puis au cours du temps, ben, intuitivement, on se dit que cette région va s'étendre et il va y avoir un front qui va se développer, qui va avancer. Donc l'allèle grand A va se mettre à envahir petit à petit tout l'espace. Hein. Alors ça, c'est un modèle pour la façon dont ces gènes se diffusent, enfin se propagent dans un espace, mais on pourrait imaginer, par exemple, deux espèces animales en train de rentrer en compétition, ou bien simplement même une espèce animale en train d'envahir un territoire, ou pas forcément des animaux, des arbres qui petit à petit vont envahir une certaine région. Et la question que se pose au départ Fischer et Kolmogorov, Petrovski et Piskunov, c'est de se dire à quelle vitesse ça avance, à quelle vitesse, comment on envahit l'espace. Et donc, à partir de cette équation, est-ce qu'on peut se demander quelle est la vitesse de ce front? Et donc ça, c'est toute cette analyse de l'équation KPP. Quelle est sa forme? Quelle est sa position? Alors, sa position, on va voir en fait que c'est un aspect un peu plus subtil que ce qu'on pourrait croire. Bon, ben, sa position, si le front avance avec une certaine vitesse V, on aurait tendance à dire que sa position, ça va être VT. En réalité, c'est VT, mais si on est vraiment dans le repère qui avance à VT, eh ben, le front, on ne le voit pas. Il se décale par rapport à ce VT d'une certaine manière, et ça, on va le discuter. Et ça, c'est un sujet qui a motivé beaucoup de travaux par beaucoup de gens. Alors, par exemple, ce décalage, bon, je vais en parler tout à l'heure, mais pas mal de gens, y compris dans l'auditoire, ont travaillé sur cette question. Alors, la question la plus facile, enfin, si on peut appeler ça facile, c'est déjà de se poser la question quelle est la vitesse du front et quelle est sa forme. Donc, pour ça, on va essayer de chercher des ondes progressives. Alors, j'utilise rarement ce mot, mais en fait, j'utilise parce que je fais cet exposé en français, les gens disent plutôt « traveling waves ». Donc c'est ces ondes qui vont avancer à une vitesse constante. Donc on va chercher des solutions sous la forme U égale F de X moins VT. Et je vais mettre ça dans l'équation et je vais trouver une équation pour la forme de F et où V va apparaître. Donc si je fais ça, je tombe sur une équation qui est moins V dF sur dz. Donc F maintenant, U a priori est une fonction de deux variables, X et T. Mais si je suppose qu'il y a un front qui avance avec une certaine vitesse constante, eh bien, ça ne devient plus qu'une fonction d'une variable, et donc j'aboutis à une équation différentielle que j'écris, d2f sur dz2 plus f moins f carré. Donc si je veux connaître la forme du front, eh bien, il faut que je résolve cette équation. Et cette équation, malheureusement, elle est non linéaire à cause du terme f carré, et bon, à part quelques exemples, en général, l'équation non linéaire, on a du mal à la résoudre. La non linéarité vient là. Si elle était linéaire, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, on ne sait pas la résoudre, mais on sait dire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses vont nous apprendre pas mal de. Vont nous permettre, en fait, tout ce qu'on peut dire va nous permettre de dire des choses sur la vitesse, sur la forme du front, etc. Alors, quand je dis qu'on ne sait pas la résoudre, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a une valeur de la vitesse particulière qui est. Bon, ici, j'ai pris un système où il n'y a pas d'unité. Si vous prenez la vitesse qui est 5 sur racine de 6, alors vous pouvez vérifier que f égale 1 moins tangente hyperbolique de racine de 5 sur 6 z. J'espère que je ne me trompe pas, parce que j'ai fait un changement de variable hier. Mais après, bon, peut-être je vais mettre ici alpha, parce que j'ai l'impression qu'en le recopiant, j'ai dû faire une erreur. Donc, pour cette vitesse particulière, il y a une solution de ce type avec une valeur de alpha qui est précise. J'ai noté racine de 5 sur 6, mais à mon avis, j'ai fait une petite erreur en le recopiant. Mais vous, si vous essayez de faire le calcul, vous allez trouver alpha tout de suite. Mais bon, mais en fait, c'est un cas particulier. Mais autrement, on ne sait pas résoudre cette équation. Mais alors, comme on est... Alors, on ne sait pas résoudre, mais on sait dire beaucoup de choses. Et alors, si on est mathématicien, on va arriver à certaines conclusions. Et si on est physicien, on va arriver aux mêmes conclusions, mais en faisant des raisonnements un peu différents. Donc je vais faire un raisonnement à la physicienne en disant « je veux résoudre ce problème, savoir à quoi ce F ressemble ». Alors pour le faire, en fait, juste pour que ça soit plus parlant, je vais faire un changement de variable, parce que donc je veux trouver la solution F de cette équation, fonction de Z, et je voudrais une solution qui est cette forme, la forme du front qui est en train d'avancer. Donc vous voyez une solution qui vaut 1 ici et 0 à l'avant, très loin à l'avant. Et je vais dire, au lieu de s'appeler F, la solution, je préférerais l'appeler Y. Et au lieu de s'appeler Z, la position, je vais l'appeler tout. Donc en fait, j'ai plutôt envie, au lieu de penser une fonction f dans l'espace, j'ai plutôt envie de penser une position en fonction d'un temps. Et donc si je réécris l'équation qui est là-bas, j'aboutis à une équation de ce genre, dy sur dt, pardon, d2y sur dt et dt carré, pardon, d2y sur dt carré égale moins y plus y2 moins, il y a ce paramètre v, dy sur des taux. Donc c'est exactement la même équation. Et j'ai envie de la réécrire un tout petit peu différemment, comme d de u de y sur dy moins v dy sur des taux. Et donc là, comme physicien, et le u, hein, le u, il est facile à trouver, u de y, il est, surtout si je regarde mes notes, y2 sur 2 moins y3 sur 3. Donc si je suis un physicien, je reconnais ici la loi de Newton. Une particule, l'accélération d'une particule due à une force. La force, c'est la dérivée du potentiel. Et puis, c'est ça, c'est l'accélération de la particule, mais il y a un terme de frottement aussi qui est proportionnel à la vitesse. Dy sur dt, c'est la vitesse. Donc, ce petit v ici, ça devient un terme de frottement. Et donc, bon, malheureusement, la notation ici fait que ce v, c'est un frottement. Donc, ce n'est pas ce v qui est la vitesse, c'est le dy sur dt qui est la vitesse dans cette façon de reformuler le problème. Donc, l'image, c'est la chose suivante. Si je pense à y en fonction de taux, eh bien, j'ai une particule qui évolue dans un potentiel. Alors, je vais dessiner ce potentiel. Donc, j'ai y et u de y. Et j'ai une particule qui est dans un potentiel qui a cette forme. Ici, il y a la valeur 1. Là, il y a la valeur 0. Et j'ai une particule qui va partir de 1. Vous vous souvenez que taux tend vers l'infini, c'est z tend vers moins l'infini. Donc, à l'instant très, très, très loin dans le passé, elle était ici. Et puis, elle va dévaler. Donc, c'est un peu, pour ceux qui aiment cette image, c'est un peu comme si j'avais un skieur ici, avec son bonnet et puis son bâton. Et... qui est en train d'essayer de dévaler. Et bien sûr, il y a une force de frottement qui fait que s'il n'y avait pas de force de frottement, il descendrait et puis remonterait à la même hauteur, il s'arrêterait là-haut, et puis éventuellement, il aurait un mouvement pendulaire comme ça. Mais dans le cas présent, il y a un frottement, et donc la particule va descendre, ne va pas remonter aussi haut, va repasser ici, éventuellement va osciller. Donc en fait, il y a deux types de situations au temps long. Alors tout ça, on peut se faire avec des mathématiques très précises, mais j'essaie d'expliquer un peu l'idée qui permet de conclure. Donc, si je regarde au cours du temps, bon, ben, donc c'est le temps tôt. Hein. Si je regarde au cours du temps ce que vaut cette variable y, eh bien, cette variable y au temps très lointain dans le passé, on était tout en haut, là, on a beaucoup de mal à démarrer parce qu'on n'a aucune énergie cinétique, ça prend beaucoup de temps pour démarrer. Et puis, ça va décroître, éventuellement osciller comme ça. Et ça, c'est si v est suffisamment petit. Parce que s'il n'y a pas de frottement, en fait, je vais remonter, redescendre, etc. Donc ça, si la vitesse est suffisamment... le frottement qui se trouve être la vitesse du front, là-bas. Mais si le frottement est suffisamment petit, eh bien, je vais avoir un y qui va avoir cette forme. Si le v est suffisamment grand, eh bien, je vais avoir un régime amorti. Hein, de toute façon... La forme asymptotique ici, la seule chose que j'ai besoin de connaître, c'est la partie linéaire. Et donc, si on demande à quelqu'un de résoudre le problème où il n'y a pas le terme y carré, c'est un exercice que beaucoup de gens ont fait au cours de leurs études, donc ça ne pose pas de problème. Et donc, si le v est assez grand, eh bien, on va avoir plutôt quelque chose qui va être amorti comme ça. Et dans le cas présent, pour distinguer entre les deux, eh bien, ce qu'on est sûr, c'est qu'on va avoir ces oscillations. Il suffit de résoudre le problème linéaire, d'oublier le y2. Dans le cas présent, ça va se passer si v est plus petit qu'une certaine valeur critique qui se trouve être égale à 2 ici, eh bien, on va avoir des oscillations. Si v est suffisamment grand, plus grand que 2, eh bien, il va y avoir un régime amorti. Alors, en fait, une façon de le voir. Je suis toujours en train d'essayer de résoudre cette équation. Et cette équation, c'est l'équation de la position de ce skieur ou de cette particule en train de dévaler. Et ce qui va se passer, c'est que si V, donc si je suppose qu'asymptotiquement, y décroît exponentiellement en fonction du temps, et que je mets ça dans l'équation, donc je suppose que très loin, je vais avoir une dépendance exponentielle, eh bien, si je mets ça dans l'équation, je remplace dans l'équation donc linéaire, où il n'y a pas de y carré, eh bien, je trouve que la vitesse va être donnée par gamma plus 1 sur gamma, et donc la vitesse en fonction de gamma a cette forme. Et vous voyez que bon, le minimum il se trouve à 2. Vous voyez que si la vitesse est plus petite que 2, il n'y a pas de solution réelle à cette équation, mais il y a deux racines complexes. Hein, c'est facile de résoudre cette équation, quelle que soit la vitesse. Il y a deux racines complexes, et quand j'ai deux racines complexes, ça aussi. Si je suis au-dessus de la vitesse 2, eh bien, il y a deux racines réelles, et donc, asymptotiquement, il va y avoir la racine réelle qui correspond à la relaxation la plus lente qui va dominer. Alors, je redis la même chose en disant que si V est plus grand que 2, eh bien, on va avoir, pour tout temps vers l'infini, Y égale A1 et puissance moins gamma 1 taux plus A2 et puissance moins gamma 2 taux. C'est juste la solution de l'équation linéaire. C'est pour les temps très grands. Et sinon, si V est plus petit que 2, Y va être de la forme A et puissance gamma réel plus I gamma imaginaire T plus A étoile et puissance moins gamma R moins I gamma imaginaire T. Et ça va donner des oscillations. Alors, dans cette histoire, ce qui se passe, c'est que la solution va être de ce type, mais connaître A1, déterminer A1, A2 ou A ici, ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'équation linéaire, elle ne me dit rien sur ces valeurs. L'obtention de ces A1, A2, c'est des choses qui vont résulter du problème complet où on aura pris en compte aussi les termes non linéaires. Alors, il y a un cas aussi qui est très important, c'est si V égale 2, ben, le Y il vaut A taux plus B et puissance moins. En fait, il se trouve que quand la vitesse vaut 2, gamma vaut 1. Je ne sais pas si on le voit ici. Donc, ça vaut et puissance moins 2. J'ai appelé T, mais en fait, c'est des taux. Donc, voilà les types des solutions. Alors, maintenant, la question, c'est... Donc, comme je l'ai dit, les coefficients, là, on sait, par analyse de l'équation linéaire, on sait la forme que ça va avoir asymptotiquement, mais la connaissance précise de ces nombres est difficile. Alors, quand je dis que la connaissance précise de ces nombres est difficile, en fait, vous voyez que la forme du front, bon, tout à l'heure, je parlais de front, en fait, ce front, c'est juste cette trajectoire de ce Y en fonction du temps. Bon, compte tenu de ces équations, si je prends une trajectoire et que je la translate dans le temps, ou si je prends un front et que je le regarde à un instant précédent, il a toujours la même forme. Donc, en fait, quand je vais décaler mon front, eh bien, j'ai exactement le même objet. Et décaler le front, alors ici, ça serait un décalage dans le temps, et ici aussi, dans le temps. Si je fais un décalage, essentiellement, j'ai le même objet. Donc, ça veut dire que c'est pas la connaissance précise des A1 et des A2 qui importe, mais plutôt une espèce d'invariant. Et alors, il se trouve que ces invariants, c'est... c'est juste un petit calcul de mathématiques, c'est-à-dire, on dit, supposons que je translate cette solution dans le temps, eh bien, je vais réaliser que 1 sur gamma 1, log de A1, moins 1 sur gamma 2, log de A2, est constant dans le sens où si je fais une translation, cette quantité ne va pas bouger. De la même façon, dans le cas du bas, là, si vous prenez A et puissance B sur A, ça, c'est indépendant de la translation. Et vous voyez que, en translatant dans le temps, je vais changer A et B, mais je ne vais pas changer cette quantité. Donc, je peux toujours, par exemple, me placer dans la situation où B vaut 0. Et ce nombre-là va rester le même, que B vaille 0 ou pas. Alors, il se trouve, je vous donne un exemple pour montrer que la chose n'est pas si simple, c'est que la valeur de ce nombre pour cette solution, ben, c'est égal à 0.142, etc. Donc c'est un nombre, mais ce nombre, on n'a pas, on peut pas dire que c'est une intégrale précise. Enfin, à ma connaissance, c'est un nombre qui est relativement compliqué à obtenir et qu'on ne peut obtenir qu'en résolvant, finalement, aussi bien qu'on peut le faire, cette équation que j'ai écrite. Mais en fait, cette question de ces solutions soulève un problème extrêmement embêtant qui est déjà noté dans l'article de Fisher de 1937 et qui est au cœur de toute cette histoire, c'est le problème de la sélection. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté jusqu'à présent ? Eh bien, j'ai une équation que doit satisfaire la forme du front. Alors, j'avais appelé Y en fonction de taux, mais c'est la même chose que F en fonction de Z. Hein, donc, je vous rappelle, je cherche une solution F de X moins VT. On a écrit l'équation différentielle non linéaire que satisfait ce F, et on aboutit à des situations comme ça. Si V est plus grand que 2, on a une solution qui a cette forme. Si V est plus petit que 2, c'est plus grand ou égal à 2, plus petit que 2, on a une solution qui a cette forme. Possible. Et la question, c'est... Bon, au départ, je vous ai dit, on part d'une situation où, localement, on a placé des individus avec l'allèle grand A. Ça va se propager, en admettant que l'équation de Fisher-KPP est la bonne équation, à quelle vitesse ce front va se propager ? Quelle est la vitesse parmi tous les fronts qu'on a trouvés ? Parce que pour chaque vitesse V, on a trouvé une forme de front. Quel est le front ? Le front, il va avancer à quelle vitesse ? Donc c'est un problème qu'on appelle un problème de sélection qui apparaît dans beaucoup de situations en physique. Alors un cas qui est, je mentionne ça juste comme remarque, un cas physique dans lequel ce genre de problème de sélection est apparu et a été résolu dans les années 80, c'est ce qu'on appelle le problème de Safman-Taylor. Alors le problème de Safman-Taylor, je le dis brièvement, c'est, imaginez que vous avez deux plaques très proches et entre les deux, il y a un fluide visqueux. Donc je regarde de dessus, j'ai mes deux plaques, enfin si je faisais un tout petit peu de perspective, voilà, j'ai mes deux plaques et à l'intérieur, il y a un fluide visqueux. Et maintenant, on essaye d'injecter, par exemple, de l'air, un fluide moins visqueux dans ce fluide visqueux. Donc on va souffler là-dedans de l'air. Et ce qu'on voit, c'est apparaître un doigt qui s'appelle le doigt de Safman-Taylor qui va avancer avec une certaine vitesse. Donc, il va y avoir une espèce de bulle d'air qui avance à l'intérieur de ce fluide visqueux. Bon. Et cette bulle, on peut se poser la question, à quelle vitesse avance-t-elle ? C'est exactement le même genre de question qu'ici. Et comme ici, ce que les gens trouvent, par un calcul que je ne vais pas faire, c'est que, en fait, il y a toute une famille, un paramètre de vitesse possible, et que cette famille dépend essentiellement, enfin, elle peut être paramétrée par le paramètre qui, ici, est la distance entre, disons, si j'appelle X et Y, la distance au centre, je l'appelle Y, eh bien pour chaque rapport XY, donc pour chaque rapport entre la distance de ce doigt de Safman-Taylor au bord divisé par la largeur ou la demi-largeur de cette expérience, eh bien, il y a une vitesse possible. Et les gens se sont posé la question et ont résolu le problème de savoir quelle était la vitesse qui est sélectionnée. Donc ça, c'est un problème. Et cette question de la sélection de la vitesse apparaît dans d'autres contextes. Et donc ici, on est dans cette situation. On a toute une famille de solutions. Et on veut savoir laquelle est la bonne. Juste avant de poursuivre là, je voudrais juste rajouter une petite remarque à ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit que quand j'analyse le problème linéaire, eh bien, la solution asymptotiquement va avoir cette forme. Mais la valeur des A, A1, etc., est difficile à connaître. Et par conséquent, même le signe est difficile à connaître. Donc, même dans un cas où il y a une relaxation exponentielle comme ici, ce n'est pas forcé que la forme va être positive. On peut très bien avoir une relaxation avec des exponentielles réelles, mais où j'ai fait une oscillation d'abord et je suis revenu. Et même, on peut imaginer des situations où on ferait deux oscillations et après, asymptotiquement, on est exponentiel. Donc, le signe de la solution, pour savoir si les solutions qu'on a obtenues sont convenables, dans le sens où elles sont positives, il faut travailler. Ce n'est pas donné d'avance. Et on verra qu'il y a des situations où ça pose problème et ça change la nature de la sélection de cette vitesse. Bon, donc, ceci dit, on va supposer, ce qui est vrai, que pour la vitesse plus grande ou égale à 2, on a une forme de front qui est positive, et pour la vitesse plus petite que 2, eh bien, le front, là par contre, on en est sûr qu'asymptotiquement, il y a une valeur, une partie imaginaire dans les gamma, et on est sûr que ça va osciller indéfiniment. Et donc, a priori, on peut exclure que la vitesse ne peut pas être plus petite que 2. Parce que le front change de signe et qu'on ne voit pas comment la densité d'individus avec l'allèle A pourrait devenir négative quelque part. Donc, sans doute, ça, ce n'est pas des solutions acceptables. Maintenant, il nous reste toute une famille de solutions. Alors, on va voir aussi, encore une fois à la physicienne, que la vitesse ne peut pas, enfin, même c'est presque à la mathématicienne, ne peut pas être plus grande que 2. Et donc, il va rester plus que 2. Alors, comment on le voit ? Eh bien, c'est relativement facile, surtout si j'ai mes notes sous les yeux. Si je prends l'équation, donc je me place dans une situation unidimensionnelle, si je prends l'équation du sur dt égale d2u sur dx2 plus u moins u2, alors il y a une chose qui est vraiment facile à faire, c'est de considérer l'équation linéaire qui lui est associée. Donc je vais considérer d2ul sur dt égale d2 de UL sur dx2 plus UL. Hein, donc c'est une autre équation, mais bon, elle est linéaire. Alors, dès qu'on est dans une équation linéaire, on sait résoudre, et je vous donne la solution. Eh bien, U de x et de t, hein, finalement, là, ça serait juste de la diffusion. Le terme UL rajoute une croissance exponentielle en plus, et donc UL de x et de t va être égal à et puis 1 sur racine de 4pi t, intégrale de u de x0 de 0, et puissance moins x0 au carré sur 4t. Et puis ici, il y a et puissance t devant. Voilà. Donc si vous j'espère que je ne dis pas de bêtises, si vous prenez cette formule, vous rentrez dans l'équation, vous allez trouver qu'à l'instant initial, la condition initiale était bien u de x0 et 0. Donc, s'il n'y avait pas le terme u ici, eh bien, il n'y aurait pas les puissances t, donc ce serait purement l'équation de diffusion. Et puis, le terme en u rajoute juste exponentielle t. Alors, à quoi ressemblent ces solutions ? Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de regarder u en fonction de... Donc maintenant, c'est u de x et de t. Donc, à l'instant t égale 0, par exemple, on va supposer qu'on est localisé. Alors, je vais prendre une situation Donc, par exemple, à l'instant initial, c'est souvent une condition que les gens prennent, c'est on va considérer que U vaut 1 jusqu'à une certaine valeur, par exemple jusqu'à l'origine, et puis que U veut 0 après. Donc, essentiellement, tout le monde est à l'allèle grand A à gauche et personne à droite, et on s'attend à ce que cette région soit envahie. Et donc, la solution pour U de X et de T, on s'attend à ce qu'au bout d'un certain temps, donc ça, c'est à T égale 0, et au bout d'un temps T, on va avoir un front qui va avancer comme ça, et on voudrait s'intéresser à la vitesse. Maintenant, si je prends le UL, donc la solution de l'équation linéaire, je prends la même condition initiale, et là, au bout d'un certain temps, alors UL, il peut croître avec le temps, il ne va pas saturer à 1. Enfin, là, j'ai mal dessiné, c'est pour rester à 1. Et le UL, il va avoir une forme comme ça. Ouais, le UL, je peux dire tout ce que je veux dessus, puisque c'est une solution d'équation linéaire, j'ai une formule explicite, etc. Donc, je peux dire toutes sortes de choses dessus. Et ce que je constate, donc, la clé de ce qui va me permettre de conclure que la vitesse ne peut pas être plus grande que 2, c'est de dire qu'en fait, U de X et de T est toujours plus petit ou égal à UL de X et de T. Pourquoi ? Bon, disons, c'est relativement évident, on voit tout le temps, on part avec la même condition initiale et U, il augmente moins vite que UL. Il est toujours en dessous. Il ne peut pas le dépasser. Donc, le U, il va être à gauche du UL. Et donc, si j'arrive à trouver un point ici, à un certain instant T, où le UL est très petit, bon, ben, je suis sûr que le U, il sera derrière, donc il avancera un peu moins vite qu'un endroit ici où le UL est très petit. Donc, si on fait ça, eh bien, on se rend compte que le front, ici, donc il suffit de regarder la forme asymptotique, bon, c'est juste pour T grand et X grand à quoi ça ressemble. Donc, pour T grand et X grand, c'est juste une intégrale ou une fonction erreur dont il faut trouver la forme asymptotique, ça on peut soit le trouver dans des livres, soit le faire à la main si on veut. Et c'est UL est égal à E puissance T moins X2 sur 4T fois T sur racine de pi X racine de T. Bon. Peu importe la formule. Donc ça, c'est pour X, hein, c'est la forme asymptotique. Et donc, je vais dire, bon, quand ça va valoir, par exemple, je peux prendre une valeur très petite, je dis par exemple, quand ça vaut un centième ou 10 moins 100 ou ce que je veux, ben, je vais essayer de trouver où se trouve la coordonnée du point X où ça vaut un centième, ça va me donner ce point vert, et ce que je sais, c'est qu'à cet endroit-là, eh ben, le U il sera plus petit qu'un centième. Donc le front il sera essentiellement à gauche de ça. Alors quand je fais ça, eh bien, je trouve, donc juste en essayant de résoudre ici quelle est la valeur de x pour laquelle ça vaut un centième ou 10 moins de tout ce que vous voulez, je vais trouver que le point vert ici, il a une position xt qui vaut 2t moins 1 demi de log t. Et donc ça me dit que le front, de toute façon, qui a été créé, il n'avance pas à la vitesse de t. Il est un peu en retard. Forcément, il est un peu en retard. Et ce calcul, non, pardon, enfin, ça c'est le point vert, et ce calcul me dit, ça c'est pour l'équation linéaire, et ce calcul me dit que ben, l'équation, la solution de l'équation non linéaire, l'endroit où se trouve le front qui est là, il est à gauche. Donc le xt de l'équation complète, il est plus petit que 2t moins 1 demi de log t. Maintenant, combien petit il est ? Comment il se décale ? Donc ça veut dire que si je suis dans un repère qui avance exactement à la vitesse de t, ben le front il sera de plus en plus loin derrière moi. Mais pourtant, le front il avance essentiellement à cette vitesse de t. Mais il prend un peu de retard, et il prend un peu de retard à cause de cette condition initiale bizarre. C'est sûr que si j'avais pris comme condition initiale le F2 qu'on a calculé ou qu'on a discuté tout à l'heure, si j'avais pris le front, la solution de l'équation d'onde progressive, là, il ne prendrait aucun retard. Il avancerait vraiment à la vitesse 2, il ne prendrait aucun retard. Mais là, je ne suis pas parti avec cette solution, je suis parti avec une autre solution. Et le retard, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il ne dépend pas précisément de la condition initiale que j'ai prise. Eh bien, il avance, il a une position qui est un peu plus lente. Alors, vous pouvez me dire, tout ce terme de log, ce n'est pas très intéressant, mais en fait, ça a rempli des, je ne sais pas, peut-être sûrement des dizaines ou des centaines d'articles à la suite d'un travail de Bramson, encore une fois, Bramson, dont on a parlé la dernière fois, et qui date de la fin des années 70, donc il a deux articles, en 78 et en 83, et Bramson prédit la chose suivante, que la position du front, c'est égal à 2t moins 3 demi de log t. Alors, donc ça, c'est le 3 demi. Enfin, pour les gens qui ont réfléchi à ces questions, ou qui ont entendu des fois des séminaires sur cette question, tout le monde parle du 3 demi de Bramson. C'est vraiment un résultat qui est important. Et comme il a écrit un article qui est assez long, en fait, pas mal d'auteurs ont essayé de le retrouver à leur façon, soit la physicienne, soit mathématiquement. Donc il y a pas mal de travaux qui tournent autour de ça. Alors, une des raisons aussi pour laquelle ce 3,5 est important, c'est qu'il apparaît dans beaucoup d'autres contextes. Il y a beaucoup d'autres contextes dont on parlera un petit peu quand je vais parler, pas la prochaine fois, mais la fois d'après, du mouvement brownien branchant, où ce 3,5 apparaît, et il apparaît dans d'autres problèmes où il y a des variables aléatoires qui ont des corrélations logarithmiques. Et c'est toujours le même 3,5 qui apparaît, alors bon, parfois un peu déguisé, mais c'est toujours le même effet qui se produit. Alors, en fait, Bramson, c'est un mathématicien, et donc il a montré ça sous certaines conditions. Et la condition, et on va voir un peu d'où viennent ces conditions tout à l'heure, il faut que U de x0 et de 0, que la condition initiale décroisse suffisamment vite. Et donc, il a besoin que ça décroisse plus vite que l'exponentielle, U de x, la condition initiale, U de x décroît plus vite que l'exponentielle, et même un peu plus vite que cette exponentielle. Donc, il faut x puissance 2 plus epsilon. Donc, il faut que ça décroisse suffisamment vite. Donc, une condition initiale comme ça marche. Une condition initiale avec une décroissance qui est plus rapide que e puissance x, donc par exemple e puissance moins 2x, ça va marcher. Mais si la condition initiale décroît trop lentement, alors ce résultat n'est pas bon. Et en fait, le travail de Bramson, donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de justifier un peu ce 3,5, à notre façon. Mais je vais juste indiquer auparavant ce que Bramson prédit dans le cas où ça ne décroît pas de cette manière. Et donc je fais ça rapidement. Si U de x et de 0 décroît exponentiellement avec un gamma plus petit que 1, donc ça décroît plus lentement, alors xt, et ça, on va voir que c'est facile à comprendre, ça va être un V de gamma fois T. Donc ça veut dire que ça ne va même pas avancer à la vitesse 2, ça va avancer plus vite, et le V de gamma, il est égal à gamma plus 1 sur gamma. Donc le front avancera plus vite. Et puis après, il y a toute une discussion de savoir si ça décroît exponentiellement comme ça, de savoir quel est le rôle du préfacteur. Et donc, il a montré que si U de x et de 0 décroît en e puissance moins x fois x puissance nu, eh bien, la position du front va être 2t moins... moins nu moins 1 sur 2 log t. Et vous voyez que quand on s'approche du moment où on réalise cette condition, quand le nu il va vers moins 2. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. C'est-à-dire, j'espère que j'ai mis le nu au bon endroit. J'ai l'impression que c'est moins. Quand le nu vaut 2. Non, alors ça doit être x moins. Dans mes notes, je me suis trompé. C'est quand nu vaut 2. Enfin, quand nu vaut 2, quand le nu qui est ici vaut 2, on arrive à moins 3,5. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me corriger, qui connaît bien mieux le sujet que moi. Mais c'est un plus ici. Oui, ça doit être plus. Donc, j'ai juste fait une erreur de signe. D'accord. Bon, ben, dans mes notes, il y a x nu. Et la seule différence, c'est que dans mes notes, il y a à moins à la place du plus. Bon. Et alors maintenant, ce que prédit Bramson, il est même plus précis que ça. C'est-à-dire, si c'est exactement moins x, x moins 2, il dit, là, il y a moins 3,5 de l'octet. Et puis, il y a plus log de l'octet. Donc, vraiment, il arrive à quelque chose de très précis. Donc, je vais essayer d'expliquer brièvement d'où vient ce 3,5. Alors, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on a ce front qui est en train d'avancer. Bon, s'il avait exactement la forme du front asymptotique, il avancerait à la vitesse 2. Et la position, ce serait 2t. Ce ne serait pas 2t moins 3,5 de l'octet. Donc, le fait qu'il y a ce retard ici, ça provient du fait que le front, il n'a pas exactement la forme du front asymptotique. Il est un petit peu déformé. Et alors, on peut se demander comment il est déformé. Et la façon dont il est déformé, c'est qu'en fait, dans toute cette région ici, ben essentiellement, il ressemble à la fonction f2. Mais si je regarde loin en avant, dans une région d'ordre racine de t, bien, il n'a pas encore la forme du front final. Il est en train d'évoluer. Et pour prendre ça en compte, on va supposer que dans cette région, donc dans la région à l'avant du front, là où U est petit, on va supposer qu'il est en train de se déformer. Et donc, une façon de faire, c'est d'essayer de résoudre l'équation de FKPP dans cette région. Et bien sûr, dans cette région, bah, U est petit. Donc, en fait, on peut faire appel à l'équation linéaire dans cette région. Donc, on va essayer de résoudre l'équation linéaire dans cette région qui est très à l'avant. Mais malgré tout, le système est non linéaire. Donc, ça veut dire que le U, par ici, il est de la forme AX et puissance moins gamma X. Près d'ici, c'est la solution. Il n'y a même pas de gamma, c'est puissance moins x, parce qu'on est à la vitesse 2. Donc, quand on se rapproche de l'endroit où le front est notoirement non nul, eh bien, on a cette forme, mais à l'avant, on a une forme d'échelle. Et donc, j'indique juste comment on peut arriver à ce genre de... à trouver le 3,5 sans trop d'efforts, hein, mais il y a pas mal d'autres façons de le faire, bien sûr, et beaucoup plus rigoureuses. Donc, on va supposer que le U, dans cette région, il est de cette forme, U égale T puissance alpha, une certaine fonction d'échelle de X moins 2T plus un certain phi de T inconnu divisé par T puissance alpha et puis fois E puissance moins X moins 2T plus phi de T. Donc on va... Si on était proche du front, ce serait cette forme exponentielle. Le phi de t me donne essentiellement le décalage. Et on met une espèce de fonction d'échelle ici qui va raccorder ce qui se passe dans cette région avec ce qui se passe près du front. Donc, et on va mettre ça dans l'équation linéaire. Et le seul endroit où intervient la non-linéarité, c'est qu'on va vouloir que ceci se raccorde avec la forme du front F2. Donc, si on veut que ça se produise, eh bien, on veut que la solution G de cette équation, enfin, on va écrire l'équation que vérifie G, mais qu'on veut surtout, c'est que G de Z soit de la forme AZ quand Z tend vers 0. Où le A, c'est le point 1,42 dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, si vous prenez cette forme, que vous la faites rentrer dans l'équation linéaire, ça vous donne deux choses. Ça vous dit que forcément, l'exposant alpha qui est là vaut 1/2, et ça vous dit que le G est solution d'une équation linéaire, 1/2 de G, bon, c'est un peu technique, mais je l'indique simplement, moins T phi prime G moins G seconde égale 0. Et donc là, on a une certaine équation linéaire. On voit que phi prime T, c'est le paramètre important. Ça veut dire que phi prime T est important, va être une constante qui va être importante. Ça veut dire que phi va être en log T. Donc déjà, on a le log T. Maintenant, il faut savoir quel est le choix de ce paramètre, parce que si T phi prime vaut une certaine valeur, s'il vaut 3,5, c'est le 3,5 qu'on cherche. S'il vaut autre chose, on sera en désaccord avec Bramson. Donc cette équation, elle peut se résoudre en termes de fonctions hypergéométriques, bon, peu importe, ou on peut l'écrire sous la forme d'une intégrale, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais la seule chose, c'est que la valeur, lorsque le paramètre vaut 3,5, eh bien, la solution, c'est g de z égale a z et puissance moins z2 sur 4. Si ce nombre est plus grand que 3,5, le g change de signe. Encore une fois, si le g change de signe, ça veut dire que la forme du front n'est pas positive, donc ça ne m'intéresse pas. Donc t phi prime plus grand que 3,5, ce n'est pas possible parce que g change de signe. Et t phi prime plus petit que 3,5, ce n'est pas possible non plus parce que la fonction qui est là décroît comme une loi de puissance. Le G décroît comme une loi de puissance. Il ne décroît pas assez vite. Et donc, le seul cas qui est compatible avec une condition initiale suffisamment abrupte, c'est le cas G égale 3,5. T phi prime égale 3,5. Donc, j'ai juste indiqué ce calcul, bon, sans rentrer dans trop de détails, mais essentiellement, ça permet de comprendre ce 3,5 de Bramson. Et ça permet aussi de comprendre tous ces comportements que j'ai indiqués. C'est-à-dire, bon, quand ça décroît avec une loi de puissance, eh bien, si on suppose, on demande que le G représente la bonne loi de puissance, ça donne ce que Bramson a obtenu. Ça, c'est un travail, c'est un calcul de physicien qui est relativement simple par rapport à ces preuves mathématiques qui sont beaucoup plus avancées. Bon, alors, ça, c'est la partie la plus technique de ce que je voulais raconter aujourd'hui. Et maintenant, je vais essayer de prendre quelques exemples ou bien de dire comment ces choses se généralisent. Alors, bien sûr, on est parti de l'équation FKPP. J'ai créé une dimension, mais on peut prendre la toute dimension, plus U moins U2. Mais on peut imaginer beaucoup de généralisations de cette équation. Par exemple, on peut supposer que on va considérer l'équation sur un réseau. Ui plus 1 plus Ui moins 1 moins 2Ui plus Ui moins Ui carré. Donc ça, c'est une première généralisation à laquelle on pensait, on va en discuter. On peut prendre une équation du genre du sur dt égale d2u sur dx2 plus un certain f de u. Donc on peut changer les non-linéarités, on peut passer sur un réseau, on peut prendre un temps discret plutôt qu'un temps continu, et il va y avoir essentiellement les mêmes phénomènes. C'est-à-dire il va y avoir une vitesse particulière qui va être sélectionnée dans tous les cas, qui sera plus 2. On va voir comment on peut la calculer, ce n'est pas très compliqué. Alors, malgré tout, si on est mathématicien, même si on ne l'est pas, en fait, il se trouve qu'il y a des conditions sur le f de u. Et la non-linéarité peut être arbitraire, sauf quelque chose. Il faut que le f de u il soit plus petit ou égal à f prime de 0 fois u. Donc, ce que ça veut dire, c'est que f de u, en fonction de u, il fait quelque chose comme ça. Il est en dessous de la tangente qui est là. Et cette condition, bon, elle apparaît du point de vue mathématique, mais en fait, elle est très facile à comprendre. Si vous reprenez le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, comment je suis arrivé à la conclusion que la vitesse plus grande que 2 n'était pas possible ? Eh bien, j'ai dit, on regarde l'équation linéaire associée. Si on prend l'équation linéaire, eh bien, la solution de l'équation linéaire était toujours au-dessus. Et pour que la solution de l'équation linéaire soit toujours au-dessus, il faut avoir ce genre de conditions. Et on verra, dans d'autres exemples de front, etc., qu'on peut avoir des résultats très différents de cette vitesse minimum si le F de U ne satisfait pas cette solution. Alors, juste pour vous montrer comment on calcule la vitesse, par exemple, vous pouvez vous demander, est-ce que si on est sur le réseau, est-ce que la vitesse vaut 2 ou pas ? Et la réponse est non. Et comment on va la calculer ? Eh bien, on va faire quelque chose de simple, en fait, qui résume un peu ce que j'ai raconté jusqu'à présent. C'est-à-dire, on va se dire, voilà, il va y avoir la solution. Asymptotiquement, elle va être une fonction de x moins vt. Et quand je suis très loin à l'avant, ça va être une exponentielle. Peut-être une exponentielle avec une partie imaginaire, peut-être pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je vais supposer que ça décroît en e puissance gamma x moins vt. Donc je dis, voilà, si on est très loin à l'avant, ben le ui de t, il va être de la forme e puissance moins gamma i moins vt. Et maintenant, je prends ça et je le rentre dans l'équation linéaire. Donc j'oublie les non-linéarités. Pourquoi ? Parce que si je suis très à l'avant, le u est petit. J'oublie les non-linéarités, je remplace et je vais trouver que gamma v égale e puissance gamma plus e puissance moins gamma moins 2 plus 1. Et donc, si je dessine v en fonction de gamma, eh bien, je vais trouver quelque chose comme ça. Et la vitesse à laquelle le front va avancer, si je pars d'une condition initiale suffisamment abrupte, c'est le minimum ici, ce Vmi. Alors, j'ai fait le calcul, par exemple, j'ai fait le calcul, dans le cas que j'ai écrit ici, la vitesse minimum, elle va valoir 2,07 au lieu de valoir 2. Donc, c'est pas une... Et si on prenait une discrétisation du Laplacien plus précise, sans doute on se rapprocherait encore du 2. Mais ça, c'est un calcul, mais la vitesse, on peut la prédire avec une très grande précision, juste comme le minimum de cette fonction. Donc ce minimum de cette fonction, on peut avoir autant de chiffres significatifs qu'on veut. Alors, j'ai fait un autre petit calcul qui peut illustrer aussi ce calcul de la vitesse, que je vous laisse comme si vous avez envie de jouer un peu avec ça. C'est juste chercher le minimum d'une fonction assez simple. C'est imaginer que je prenne l'équation discrète, cette équation discrète, donc je ne sais pas moi, f kpp discrète, et que je la mets sur un réseau à deux dimensions. Et donc je commence avec des u non nuls quelque part, et maintenant il va y avoir un front qui va avancer. Ce front va avancer à une vitesse qui est 2,07 dans cette direction, mais dans la direction, par exemple, ici, bon, ben, le calcul est un peu différent. On met encore une fois une exponentielle, mais allant dans cette direction. Si vous faites ça, vous allez trouver que la vitesse vaut 2,039. Donc, bon, c'est un petit calcul qui est pas compliqué à faire. Une autre, puisque je parle de dimension, c'est aussi assez facile de généraliser le calcul de Bramson. Et le calcul de Bramson, si on est en dimension d, alors il va donner que... donc là, je parle hors du réseau. Hein, dans l'espace homogène. Bon, donc avec le vrai Laplacien, eh bien, on va trouver que le rayon de cette tâche augmente en 2t moins d plus 2 sur 2 log t. Donc le cas d égale 1, c'est Bramson, et ça, c'est une généralisation. Donc tout ça, c'est vraiment des généralisations évidentes. Alors, la dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est l'effet des fluctuations, et pour vous dire en quoi ces calculs quand même sont des résultats de champ moyen, et qu'est-ce que ça change si on fait des fluctuations, si on prend en compte les fluctuations, si on essaye de vraiment résoudre un problème. Et donc pour ça, hein, dans les 20 minutes qui restent, Je vais parler d'un modèle qui est aussi très, très utilisé ou très étudié chez les mathématiciens, mais qui peut être un modèle pour la façon dont une épidémie se répand. C'est ce qu'on appelle le processus de contact. Alors, le processus de contact, il est assez facile à définir. Donc, vous prenez un réseau régulier. En fait, dans beaucoup de ce que je vais dire tout à l'heure, ça va être le réseau à une dimension. Et maintenant, chaque site est soit occupé, soit vide. Donc, un peu comme dans un modèle d'Ising. Donc, il y a une variable, tau i, qui vaut soit 1 ou 0, selon qu'il est occupé ou vide. Et maintenant, les particules, dans ce problème, ne bougent pas du tout. Les particules, la seule chose, c'est que de temps en temps, elles meurent, et de temps en temps, elles sont contaminées par leurs voisins. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un site donné peut mourir avec un taux 1, et puis un site vide au voisinage d'un site occupé peut devenir occupé avec un taux lambda. Et puis s'il a... Alors après, il y a différentes versions du modèle, mais supposons qu'il ait deux sites occupés à côté, bah, la probabilité de devenir occupé, c'est 2 lambda. On pourrait mettre lambda ici aussi, enfin, on peut jouer avec ça comme on veut. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un processus de contact. Donc, les particules ne bougent pas, mais sont dans deux états, occupées, pas occupées. Et comme on l'a fait la dernière fois, si on introduit une variable de tau i, comme je l'ai fait à l'instant, il est facile d'écrire une équation exacte d'évolution de cette occupation. Donc, c'est toujours le même genre de raisonnement. Avec quelle probabilité on passe de vide à occupé, de occupé à vide. Et donc, ça donne moins tau i plus lambda somme sur j de tau j à moins tau i. Donc ça, c'est une équation d'évolution qui est parfaitement exacte. Il n'y a aucune approximation dans cette équation. Et bien sûr, c'est comme je l'ai déjà dit plusieurs fois la dernière fois, donc les j, c'est les voisins de i, eh bien, le problème, c'est que ça fait apparaître des corrélations tau i, tau j, et que ces corrélations, si je veux les étudier, ça va me faire appel à de nouvelles corrélations, etc. Et donc, je ne m'en sors pas. Si je décide de faire une approximation de champ moyen, alors, une façon de faire cette approximation, c'est de factoriser ces corrélations. Et bien sûr, quand je factorise, ben, je sais que j'ai fait une erreur. Bon, je ne sais pas forcément le degré de cette erreur. Est-ce que c'est une petite erreur? Est-ce qu'elle est grave? Mais je fais cette approximation. Et si je fais cette approximation, vous voyez que j'ai d tau i sur dt. Bon, ben maintenant, j'ai plus qu'un seul nombre sur chaque site. Et je peux regarder son évolution. Moins tau i plus lambda somme sur j voisin de i de tau i moins tau i tau j. Alors ça, c'est le processus de contact. Comme on l'a vu la dernière fois aussi, bon bah, si je pars d'une situation homogène, c'est-à-dire que si tous les tau i sont égaux à rho, pour l'instant, enfin, y a l'aspect où on voit un front en train d'avancer et d'envahir une région, mais il y a une autre... déjà, la question la plus simple, c'est si je suppose que c'est quelque chose d'homogène, bon bah, je vais trouver que d rho sur dt égale z lambda moins 1 fois rho moins z lambda rho carré. Hein, où z, c'est le nombre de voisins. Alors, si je dessine en fonction de lambda, vous voyez qu'il va y avoir une valeur critique qui est lambda égale 1 sur z et que rho au bout d'un temps t, ben, si on est en dessous de 1 sur z, il va mourir, donc on va tomber vers 0. Si je pars d'une valeur de rho au cours du temps, elle va décroître. Si je suis au-dessus de cette valeur, eh bien, ça va croître. Et ici, ça va décroître, et donc il va y avoir ce qu'on appelle une transition de phase, où il va y avoir une phase vivante qui va apparaître. Donc ça, c'est un exemple simple de transition de phase que l'on voit dans une, théorie de champ moyen. Bon, très semblable, ça ressemble à une transition de phase d'un système magnétique. Alors, en termes un peu plus imagés, si on veut parler de contamination, si on veut penser vraiment que une particule, un site occupé, ça correspond à un individu qui est contaminé, il peut guérir ou il peut contaminer ses voisins. Et manifestement, bon, on peut se poser la question, est-ce que l'épidémie va s'éteindre ou est-ce qu'elle va se propager et va rester présente indéfiniment, même s'il y a des gens qui guérissent, la contamination va être active tout le temps. Bon, donc là, il y a une transition de phase qu'on voit en champ moyen. Alors, une chose étonnante, a priori, si on a un peu d'expérience en physique statistique, c'est que la transition de phase, elle existe même à une dimension. Ça, c'est relativement inhabituel en physique statistique. On prend un modèle d'Ising, on prend des modèles classiques de physique statistique, et en général, les fluctuations détruisent la transition de phase. Et ici, il y a la présence de transition de phase, et la transition de phase, c'est toujours entre un état vide, donc un état vide qui ne peut pas... où rien n'apparaît, et puis dès qu'on fait apparaître quelques individus contaminés, il y a une certaine probabilité que ça se répande et d'observer une région infinie de sites occupés, une certaine densité qui va envahir tout l'espace. Bon. Donc ça, c'est ce que je voulais dire déjà comme introduction à ce problème de processus de contact. Juste, je vous signale que la valeur de la... Je sais ce que j'ai noté. Donc, qu'à une dimension, il y a une transition de phase pour une certaine valeur lambda critique. Et donc, là, j'ai trouvé une référence qui date d'une vingtaine d'années, et les mathématiciens ont prouvé que ce lambda critique est compris entre 1,53... et 1,94. Et bon, les mathématiciens aiment bien les inégalités, les physiciens aiment bien les égalités, et donc le même article cite cette valeur, en fait, à une dimension, 1,69, et en préparant ce cours, j'ai voulu écrire un petit programme, et effectivement, des programmes que je vais essayer d'indiquer une façon de procéder, permettent de trouver ce genre de valeur de manière assez précise. Donc, alors, si vous regardez, donc ça veut dire que si lambda est plus grand que lambda c, ben, l'épidémie survit. Ben, si j'attends très longtemps, ben, il va toujours y avoir des sites occupés, à condition que je sois sur un réseau de taille infinie. Et en dessous de ce lambda c, ben, ça meurt. Et juste pour petit commentaire, c'est que vous voyez cette valeur de lambda critique, bon, qu'on soit mathématicien ou physicien, on est bien d'accord que ça vaut plus que 1, mais si vous prenez le champ moyen, à une dimension, le nombre de voisins, c'est 2, donc la théorie de champ moyen, elle prévoirait que lambda c, c'est 1,5. Donc vous voyez que le champ moyen, là, il ne fait pas des miracles, il prédit une transition très loin de la véritable transition qui est à cette valeur. Donc pour terminer, je vais essayer de revenir à la question de front qui avance dans ce problème de processus de contact. Et je vais essayer de vous dire ce qui se passe, donc front dans le processus de contact. Alors, la première chose, c'est que si vous prenez le vrai processus de contact, eh bien, si vous partez avec un nombre fini de sites occupés, bon, il y a une certaine probabilité non nulle si on est au-dessus du seuil, il y a une certaine probabilité non nulle que ça envahisse tout l'espace, mais il y a une certaine probabilité non nulle que les trois individus que j'ai mis là meurent avant d'avoir contaminé les autres. Hein, donc, ce n'est pas sûr qu'il y aura un front qui va se former quand j'ai un nombre fini de sites occupés au départ. Par contre, si je pars avec un nombre infini de sites occupés. Donc je dis, par exemple, tous les sites à gauche de l'origine sont occupés, ou bien même tous les sites à gauche de l'origine sont occupés avec une densité un millième, mais bon, ce qui veut dire qu'il y aurait une infinité de sites occupés à gauche, alors la densité va atteindre une certaine valeur d'équilibre et un front va se mettre à bouger. Et la question, c'est à quelle vitesse avance ce front ? Alors, on s'attend à ce qu'il ne va pas avancer très vite si on est tout près du seuil de transition. Donc, le front va avancer à une vitesse qui est lambda c moins lambda, un certain exposant que j'appelle gamma, oméga, pardon. Bon, donc, une des questions qu'on peut se poser quand on vient de la théorie des phénomènes critiques, c'est on part avec ce processus de contact, on met par exemple tous les sites occupés à gauche, ou bien on part avec une certaine densité, ça ne va pas changer grand-chose, et on veut savoir à quelle vitesse avance ce front et comment il va dépendre de la distance au point critique. Alors, c'est un calcul de cette vitesse que vous pouvez faire de la même façon que ce qu'on a fait tout à l'heure dans le cas du champ moyen. Et donc, quand vous faites un calcul de champ moyen, vous trouvez oméga champ moyen qui est égal à 1/2. Donc, ça va avancer comme la racine de la distance au seuil. Si vous faites des simulations, faisant assez attention, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu comment on peut le faire, eh bien, vous trouvez une valeur à une dimension qui est différente et qui vaut, je ne sais pas en mémoire, mais j'ai dans mes notes, qui vaut 0,637. Vous pouvez me dire, donc à une dimension, c'est 0,637. Et donc ça, c'est un exposant critique. Et le genre de technique qu'on doit utiliser pour l'obtenir, c'est des techniques de genre renormalisation, des choses dont j'ai parlé dans le cours de l'année dernière. Alors, dans le cas présent, je vais vous dire une façon, c'est avec ça que je vais terminer, une façon d'estimer par des méthodes numériques cet exposant. Alors, en fait, cette façon, elle repose sur ce qu'on appelle les effets de taille finie. Donc, ça consiste à prendre des petits systèmes et d'essayer de calculer avec un ordinateur, mais avec un ordinateur, pour un système de quelques sites, on peut calculer tout ce qu'on veut avec la précision qu'on veut, c'est-à-dire des dizaines de chiffres significatifs si on en a envie. Donc, je prends un système fini de taille L avec des conditions périodiques et je me pose la question suivante. Quel est le temps qu'il faut que j'attende pour que si je pars avec tout le monde occupé, j'arrive à tout le monde vide ? Donc, comme le système est fini, il va toujours arriver un moment, une fluctuation qui va faire, je ne sais pas, que les morts auront été plus fréquentes à un certain moment et que ça sera devenu vide. Et donc, je vais appeler ce temps TL, le temps pour que j'atteigne cette configuration où tout le monde est vide. Et ce temps, bien sûr, puisque c'est un processus stochastique, ce temps, il va fluctuer. Donc, je peux poser la question, quel est le TL moyen ? Quel est le TL au carré moyen ? Je pourrais calculer les autres si ça m'amuse. Et ça, c'est un petit programme, en fait, je ne sais pas, de trentaine de lignes, qui permet de calculer ces temps pour des L allant de, je ne sais pas, de 2 à 18 ou 20, comme ça. On peut avoir ça avec une certaine précision. Ça ajuste à chercher le vecteur propre d'une matrice ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui ne pose aucune difficulté. Et maintenant, je voudrais savoir quel est le point critique. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, c'est ce qu'on appelait l'année dernière les rapports de Binder. Je vais dessiner tau L divisé par tau L carré. Donc, ça me donne une idée de la façon dont ces temps fluctuent et en fonction de lambda. Et ce que j'observe, c'est la chose suivante. Si je prends des tailles de plus en plus grandes, je vais avoir des courbes qui sont de plus en plus pentues et qui ont tendance toutes à se couper au même endroit. Et l'endroit où elles se coupent, c'est lambda c. Alors, si je regardais avec un microscope, en fait, l'endroit où elles se coupent, c'est pas exactement... Elles ne se coupent pas pile au même endroit, et plus elle est grand, plus le point d'intersection est proche du vrai lambda c. Mais ça, c'est une façon de déterminer lambda c. Et maintenant, si on prend en compte les effets de taille finie, alors on va se rendre compte que TL, il va être de la forme L puissance. Alors, je donne les noms de ces exposants tels qu'ils existent dans la littérature, une fonction de lambda moins lambda c fois L puissance 1 sur nu perpendiculaire. Donc en fait, essentiellement, je vais juste définir rapidement ces deux exposants, mais étant donné que j'ai ces courbes, si je veux connaître cet exposant qui apparaît là, bon, je l'ai appelé 1 sur nu perpendiculaire, peu importe, il suffit que je regarde comment la pente ici se met... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ça, c'est ça. Et par contre, oui, peut-être un petit mot que j'ai oublié de dire, c'est que si je prends le rapport TL carré sur TL au carré, lui, c'est une fonction, il n'y a pas de préfacteur, c'est juste L puissance 1 sur nu perpendiculaire fois lambda moins lambda c. Donc, si je veux trouver cet exposant, je regarde toutes ces courbes pour les différentes tailles vont se couper en lambda c. Et maintenant, si je regarde la façon dont la pente évolue avec la taille, ça me permet d'estimer cet exposant. Une fois que j'ai estimé cet exposant, je prends mes données sur les TL, ça me donne l'autre exposant. Et le oméga qui apparaît ici, eh bien, il se trouve que c'est exactement nu perpendiculaire, nu parallèle, pardon, moins nu perpendiculaire. Donc, une façon de calculer, vous voyez, c'est en fait ça, tout ça, ça a à voir avec la théorie des phénomènes critiques, parce que c'est un petit peu magique, et ces effets de taille finie, parce que vous voyez que là, je pars d'une situation où il n'y a aucun front, rien du tout, je regarde juste le temps pour lequel qu'il faut attendre pour que le système disparaisse, hein, parce que même si lambda est grand, eh bien, tout va disparaître, tout va s'arrêter parce que le système est fini, il y aura toujours une fluctuation qui va m'amener dans cet état. Bon, ben, si je mesure ces temps, ce qui est facile à faire par un programme informatique, ça me permet d'estimer ces exposants et ça me permet de prédire avec quelle vitesse le front dans le problème de contact va avancer. Ça va dépendre de ces exposants qu'on sait calculer par les méthodes standards du groupe de renormalisation ou d'effet de taille finie. Je m'arrête là et je vous remercie.